La cendre ne parvient qu'à me prouver la flamme. Victor Hugo, Les enterrements civils. Un besoin immense de consolation. J'ai longtemps été aveugle à la consolation. En tant que psychiatre, je me contentais de soigner. En tant qu'auteur, d'expliquer et d'encourager. En tant qu'humain, de réconforter. Un jour, je suis tombé malade, gravement, et je me suis dit que ma vie allait peut-être se terminer plus vite que je ne l'avais prévu. Cela ne m'a pas rendu anxieux, plutôt triste de quitter cette existence avant de m'en être lassé. Et cette tristesse ne m'a pas replié sur moi, mais m'a poussé à observer ce monde plus attentivement encore. Comme toutes les personnes menacées par la mort, j'ai trouvé que la vie était belle. Et comme beaucoup d'entre elles, j'ai découvert que j'avais un besoin immense de consolation. Dans ma grande fragilité, du corps et de l'esprit, le moindre sourire, le moindre chant d'oiseau, le moindre copeau de bienveillance ou de beauté me faisait un bien infini. De retour chez moi après mes hospitalisations, j'ai mis de l'ordre dans mes papiers, on ne sait jamais. Et en rangeant de vieux livres de psychiatrie pour les donner, je suis tombé sur un petit marque-page dédicacé par un de mes anciens patients de Toulouse, un homme tourmenté, toxicomane, bipolaire, que j'aimais beaucoup. J'avais le plus grand mal à le soigner et à le stabiliser, mais il ne voulait voir personne d'autre que moi, et revenait presque toujours en consultation, même quand il était en sale état. Parfois, il disparaissait quelque temps quand il avait trop honte de lui pour venir me voir. Sur le marque-page étaient écrits ces mots. « Cher docteur André, merci pour votre patience à mon égard et pour la grande confiance que vous me donnez lorsque je suis avec vous. Philippe. » Philippe a fini par se suicider quelque temps après mon départ de Toulouse. C'est son compagnon qui me l'a appris. À cet instant, laissant défiler le souvenir de nos séances de thérapie, je me suis dit que j'avais échoué à le guérir. C'est vrai qu'il ne m'y aidait guère, mais que j'avais, presque toujours, réussi à le consoler, sans le savoir. Lorsque j'avais du mal à guérir mes patients, il m'arrivait de me demander pourquoi ils revenaient tout de même me voir, fidèlement, et avaient l'air heureux, malgré tout, de ces retrouvailles. Je me disais qu'à leur place, j'aurais sans doute cherché un autre médecin. J'étais alors aveugle à la consolation, plein de ma conviction qu'un bon soignant ne pouvait se satisfaire que de guérison. Je n'avais pas encore compris que, à côté de la science et de la bienveillance, je pouvais apporter d'autres choses aux patients pour les aider et les consoler. Douceur, fraternité, sincérité, spiritualité. Je les leur donnais sans doute, au moins en partie, mais à mon insu. Focalisé sur le bien que je n'arrivais pas à faire, guérir, je méconnaissais celui que je faisais, consoler. Finalement, malgré la maladie, je suis toujours là. La mort m'a pris dans le creux de sa main, puis m'a reposé dans la vie. Comment expliquer que je ne sois pas traumatisé et anxieux de cet épisode, mais apaisé et plus heureux de vivre encore? Peut-être parce que j'ai découvert la consolation, qui, bien plus qu'un réconfort passager, est un moyen de vivre, avec les orages, une déclaration d'affection, une chanson douce, et remet en lien avec le monde tout entier, avec ses beautés et ses adversités. Comme un fil rouge, elle court tout au long de notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Nous ne cessons de la côtoyer et d'avoir besoin d'elle, de manière ouverte lorsque nous sommes enfants, secrètement lorsque nous devenons grands. Les consolations, c'est tout ce que l'on espère ou que l'on offre quand le réel ne peut être réparé. C'est tout ce qui nous relève, écarte pour un instant nos désespoirs et nos résignations et ramène doucement en nous le goût de la vie. Puisse cet ouvrage ne pas être seulement un livre sur la consolation, mais aussi un livre consolateur. Je ne sais pas si nous pourrons vous consoler. Bonjour Marie, je suis désolé de faire votre connaissance dans des conditions aussi douloureuses pour vous. Merci de la confiance que vous nous manifestez en nous parlant de votre souffrance. Je ne sais pas si nous pourrons vous consoler. C'est très difficile, la consolation. On ne peut rien réparer, rien changer à ce qui fait souffrir. On sait que nos paroles ne peuvent apporter qu'un réconfort passager, voire pas de réconfort, voire encore plus de souffrance parfois, parce qu'elles sont maladroites, impuissantes, parce qu'elles arrivent au mauvais moment. Mais on ne peut pas se contenter de cela, se contenter de dire qu'il n'y a rien à dire pour soulager la souffrance d'une maman qui a perdu son enfant. Alors, je vais vous confier humblement ce que je m'efforcerais de faire si j'étais frappé par la même douleur terrible que vous. Lorsque nous sommes engloutis par la souffrance, submergés par les remous de tout ce qu'elle charrie avec elle, cette souffrance, ressentiment, désespoir, culpabilité, peur, envie, colère, il me semble qu'il y a deux grandes directions à s'efforcer de suivre. D'abord, de notre mieux, rester en lien avec le monde, ne pas nous replier sur nous, ne pas nous rétracter sur notre douleur et notre malheur, même si ce lien nous fait souffrir, parce que nous ne voyons plus ici-bas que l'absence de la personne aimée, c'est pourtant lui qui va peu à peu nous aider à revivre, tout doucement. Ensuite, se donner le droit, justement, de revivre. D'où elle se trouve, Lucie vous aime toujours et vous soutiendra toujours. C'est elle qui vous redonnera le goût de vivre à nouveau, de regarder le soleil et le ciel, les fleurs qui s'offrent, les enfants qui rient, en souriant, malgré tout, malgré la tristesse. Cette tristesse, elle ne vous quittera jamais, mais elle sera peu à peu plus douce et vous apportera un jour la paix. Elle vous permettra de penser à tous les bonheurs que vous avez connus avec Lucie, sans que cela vous fasse pleurer ou soupirer, mais juste sourire, doucement. Vous pouvez être heureuse, vraiment, d'avoir eu une telle fille, capable de paroles si belles, de générosité si grande, heureuse de tous les bonheurs vécus à ses côtés, heureuse qu'elle ait aimé si fort la vie. Ne jamais oublier ses bonheurs, c'est très important. Ne jamais chasser la tristesse et la souffrance qui viendront parfois les obscurcir, comme les nuages viennent cacher le soleil, c'est important aussi. Laissez vivre vos émotions. Mais n'oubliez jamais de songer régulièrement à toutes les joies que Lucie vous a données. Tenez-les en vie dans votre âme. Ouvrez aussi les yeux sur tous les petits bouts de bonheur qui vont doucement réapparaître dans vos journées, sans que vous ne vous en rendiez compte au début, comme des fleurs sur le bord de ce chemin actuellement si pénible et douloureux. N'écoutez pas les personnes qui vous demandent de faire votre deuil. Ne leur en veuillez pas non plus. Ce chemin, vous allez le parcourir à votre rythme. Personne ne peut vous forcer à aller plus vite. Et personne ne peut y avancer à votre place. Prenez votre temps, mais regardez au loin. Regardez le ciel et les étoiles, le plus souvent possible. Ce n'est pas une image. Regardez-les vraiment. Regardez-les souvent, en respirant, en pensant à Lucie, en lui souriant. Sa devise, que vous me citez dans votre lettre, le bonheur consiste à rendre les autres heureux, est une merveille dans sa simplicité, de générosité et d'intelligence. Votre fille était merveilleuse. Votre fille est merveilleuse. Gardez-la en vie, dans votre cœur. Continuez de lui parler, de partager avec elle toutes les belles choses que vous allez croiser désormais sur votre chemin. Prenez bien soin de vous. Mes pensées vous accompagnent. Je vous embrasse fraternellement.